voix nue, Alain Corneau, par Sophie Nolot.
Alain Corneau, quatrième.
Des images et des mots. S'il est une constante, Alain Corneau, dans votre filmographie, c'est ce goût pour l'écriture, la littérature dont nous avons parlé. C'est vrai qu'il y a peu de longs-métrages que vous ayez réalisés qui ne soient pas tirés ou adaptés d'un livre à l'origine.
C'est vrai.
Alors bien sûr, les romans depuis Belle Lurette inspirent les cinéastes et les livres ont une grande influence sur le cinéma. Mais il semble que chez vous, ça aille bien plus loin, ne serait-ce que par la qualité des écrivains contemporains qui vous attirent.
Et la diversité, j'espère.
Oui, oui. On va parler de Pascal Quignard, Amélie Nothomb, enfin... même de Dominique Ménard à Tabouki et à Jim Thompson, enfin, à des auteurs de polar comme ça, oui, le grand écart est total.
Juste une petite intro, j'ai eu en fait trois pratiques. Oui. J'ai commencé par les scénarios originaux que j'ai développés avec des scénaristes, Daniel Boulanger, etc.
Oui.
Après, j'ai travaillé avec des écrivains comme Michel Grisolia, où on a travaillé le scénario et en même temps, il écrivait le roman. Après, avec Quignard, ça a été encore autre chose, parce que j'ai voulu faire ce film, Quignard m'a dit, je ne sais pas écrire le scénario, je vais écrire un roman, tu verras bien si tu peux l'adapter. Donc, en fait, c'est une sorte de commande, sans en être une. Et puis, après, il y a toutes les adaptations dans le sens traditionnel.
Finalement, vous êtes allé crescendo.
Oui, ou décrescendo, j'en sais rien. Ça, c'est une question de point de vue. J'adore les écrivains. J'adore les rencontrer. J'adore adapter. À chaque fois, je dis aux écrivains, parce que moi, j'ai, contrairement à beaucoup de mes confrères, ce que je comprends, aucune frayeur de l'écrivain. C'est-à-dire d'abord, et du livre. Quand je vais adapter un livre, c'est que j'adore le livre en entier. Et que j'adore la personne qui l'a écrit. Donc je ne me méfie pas de l'auteur, comme beaucoup de gens peuvent se méfier, et je comprends, en disant mais non, mais
c'est les soucis.
Maintenant, c'est mon scénario, l'auteur n'a plus rien à voir. Ça n'a jamais été mon problème. Donc là, il y a toujours deux cas de figure, ou des gens qui disent ah, ça m'intéresse de travailler avec toi, ou alors qui disent bah non, moi j'ai écrit le livre, faites ce que vous voulez. Voilà, j'ai eu souvent ce cas-là avec des auteurs. Hein. Gardel, ça l'intéresse. Quignard, il a retravaillé avec moi aussi. Par contre, que ça soit Tabouki, Nothomb ou des gens comme ça, ils ont dit non, non, faites ce que vous voulez, c'est à vous de jouer. Au début, j'ai fait des adaptations sans trop me poser de questions sur le pourquoi, à part que j'adorais le bouquin. Après, je me suis dit, ah, mais est-ce qu'il y a dans tes fascinations des adaptations quelque chose qui te ressemble, c'est-à-dire adapter un livre, pour moi, c'est adapter l'histoire, bien sûr. Mais c'est surtout réfléchir au style du livre.
À la langue.
Ah oui, à la façon dont c'est construit. Et pourquoi le livre a fonctionné sur moi. Et là commence une espèce de réflexion bizarre qui tient plus de l'alchimie que de la science, hein, ou de la magie, où je me dis, comment je vais maintenant, par des moyens de mise en scène cinématographique, transmuer à l'écran ce style de livre. Et là commence la véritable adaptation, à mes yeux, qui est d'abord solitaire, au moment où je forme l'adaptation elle-même, et qui devient très vite collective avec mon équipe. Le son, la décoration, l'opérateur, bien sûr, etc. En se disant, quels vont être les procédés cinématographiques qui vont nous permettre de filmer ce sujet en étant imprégnés de la réussite du livre à nos yeux. Et ça, c'est effectivement, ça m'a amené très souvent à être, entre guillemets, déroutant, je veux dire, à l'extérieur, parce que du coup, ça veut dire que je n'ai pas de langage, de mise en scène, de forme prédéterminé.
Propre.
Voilà, j'en ai pas, ça ne me gêne pas. Je pense avoir des thèmes qui sont plus profonds que ça, et peut-être que c'est un moyen de me rassurer aussi, hein, j'en sais rien, peut-être que c'est une sorte de foutaise, et que c'est bien de me rassurer. Mais je me souviens très bien que ça a commencé très nettement avec Nocturne Indien, où on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Pourquoi ce livre est si magique, alors qu'apparemment il ne s'y passe rien, que ça a l'air banal, que cette espèce de petit décollement, des petits malentendus d'importance, comme dit Antonio, qu'est-ce qui fait que... Alors après, l'Inde était évidemment la terre nourricière du film, mais c'est comme ça qu'on a abouti avec Evangelo, l'opérateur, à une forme particulière, qui était souvent faite de salles d'attente, de gardes, des choses comme ça, de bureaux.
Mais de temporalité indienne.
Voilà. On s'est dit qu'il fallait que l'Inde rentre par la grande porte, donc on filmait ça de manière, avec une certaine photo. Où on a été le plus loin, c'est dans Tous les matins du monde, où on s'est dit, attention, bon, alors ça a été des longues semaines de réflexion, on a parlé peinture, on a parlé bien sûr Lubin Bogin, on a parlé Nature morte, Vanité de l'époque, etc. Musique, beaucoup, bien sûr.
Parce que le tableau de Lubin Bogin, La Nature morte, a inspiré Quignard et a inspiré tout le roman.
Et a inspiré, j'espère, le film aussi.
Bien sûr.
Voilà. Et c'est là où on s'est dit avec Yves, avec Angelo et l'ingénieur du son et la déco et tout, et ben, il va y avoir que des plans fixes. Alors évidemment, c'est un pari qui a l'air comme ça un peu infantile et fou. Mais ce qui est extraordinairement porteur et effrayant sur le plateau, c'est les deux. C'est à ce moment-là où j'ai eu l'impression d'aller un peu loin quand même, et au bout d'une semaine ou deux de tournage, de me dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est là où le doute dont on parlait m'a pris trop. Et la vision des roches devenait un véritable cauchemar, où je me disais, le film n'a aucune vie, ça va être une espèce de truc plombé, où il ne va rien se passer, etc. Et là, mon équipe m'a combattu, à juste titre. C'est pour ça que je dis encore une fois que c'est plus que des techniciens. Et il m'a dit, bah, écoute, il faut que tu arrêtes de voir les roches, et il faut continuer de la manière dont on a décidé de le faire, parce que sinon, on ne sait plus ce qu'on va faire. On va faire n'importe quoi, on va faire du matériel pour le montage, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc on a continué, j'ai repris espoir à ce moment-là, et on a continué à filmer avec ce procédé de plan fixe, ce qui permettait bien sûr un jeu d'acteurs différent, une écoute de la musique bien différente bien sûr, une structure de l'image extraordinairement différente, beaucoup plus proche des peintures de Vanité de Lubin Bogin, parce que ça permettait à l'opérateur d'éclairer avec des sources très fines au bord cadre. Dès qu'on panoramique, la lumière est différente. Mais si on a un plan fixe, on le compose différemment sur un tas de plans. Et donc, ça a donné le style particulier de ce film. Donc,
voilà. Et le rythme.
Et le rythme, bien sûr, qui est très, très... Qui, je l'espère, est fascinant, mais on ne pouvait pas le savoir au moment où on le faisait. On l'espérait, bien sûr. Et je me souviens toujours de Marielle disant, mais je suis là dans ma pauvre cabane, comme un pauvre chanteur de blues de Mississippi, complètement paumé, avec ce gros œil qui me regarde fixement, et que je dois apprivoiser. Et on discutait beaucoup avec Jean-Pierre de ça, et il a assez vite compris de quoi il s'agissait, effectivement. Et que ça lui permettait de jouer lui aussi différemment, voilà.
Mais sur tous les matins du monde, c'est très fascinant oui. de voir la place que vous donnez à l'écriture. Cette mm-hmm. voix off par oui. Gérard Depardieu qui raconte l'histoire comme ça, et c'est l'écriture
bien
de Quignard très, très façonnée. Enfin,
bien
tout
sûr.
D'un coup, c'était une prise de risque
oui.
aussi quand même.
Bah, la prise de risque était multiple. D'abord, la musique elle-même. Hein. D'abord,
oui, Jordi Savall, la
oui,
musique
baroque. Oui, bien sûr. Le
vous
son
étiez
de la...
les trois mousquetaires du baroque, avait titré
voilà,
un journal à l'époque.
Le son de la viole de gambe. Je me souviens toujours que j'ai tenté de faire écouter à des distributeurs, des financiers, la musique avant le tournage, et les réactions étaient extraordinairement négatives. Et le producteur Jean-Olivier m'a dit, il faut que tu arrêtes de faire écouter ça, parce que ça va mal se terminer.
Mais même les comédiens, Anne Brochet raconte qu'au début, elle a trouvé la musique assez
oui.
déprimante, et il a fallu plusieurs écoutes pour qu'elle
oui.
rentre dedans.
Oui, mais les comédiens, ils peuvent avoir un moment de difficulté à comprendre ce qu'on est en train de faire, mais par contre, ils ont une vision positive. Par contre, les financiers, ils peuvent être entièrement négatifs. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est les chats qui miaulent, ça me paraît faux, ça n'a aucun intérêt, c'est très triste, effectivement. Enfin bon, voilà. Surtout qu'à un moment où je voulais appeler ça le tombeau des regrets, là c'était le maximum. Bon. Et le langage. Alors là, il n'était pas question, effectivement, de peigner ou de banaliser l'écriture de Pascal. C'était absolument impossible. Mais c'est vrai que la gageure était forte de faire dire à des acteurs d'aujourd'hui, enfin de l'époque, un texte qui est un texte baroque de l'époque, je veux dire, tel que Quignard pouvait réussir. Voilà. Et souvent, j'avais effectivement les cauchemars en disant « Mais comment Gérard va y arriver? Comment Marielle va y arriver? Comment Anne va y arriver à dire ce texte ?» Et en fait, ça passait très bien. Donc de nouveau, c'est les acteurs dans ces cas-là qui sont en commande. Hein. Je veux dire, c'est le vrai cadeau, il est là. Effectivement, nous, metteurs en scène, on maîtrise un tas de choses. Au début, quand on commence notre carrière, on pense qu'il faut tout contrôler, etc. Mais en fait, on s'aperçoit très vite que le moment important, c'est le moment où on dit moteur et partez ou action, et où les acteurs vous volent le film dans le bon sens du terme. Je dirais. Et ces moments-là magiques, où on ne sait pas très bien ce qu'on veut, nous, metteurs en scène. On sait ce qu'on ne veut pas, par contre, ça, c'est, on arrive à le savoir. Mais on ne sait pas très bien ce qu'on veut, où l'acteur, d'un seul coup, incarne avec sa chair ce qui reste pour nous une idée quand même relativement abstraite.
Et le tournage en Creuse, c'est l'anti-Force à Gagne,
oui.
pour le coup.
Alors d'abord, il fallait que le film soit très bon marché, parce que quand même, c'est un film très risqué. Donc j'ai poussé, moi, à ce que ça se fasse dans un lieu unique, qu'il n'y ait pas de déplacement, qu'on puisse être dans un lieu où on soit un peu retiré du monde. J'y tenais un petit peu aussi à ça, qu'on soit un peu isolé. Un lieu qui puisse réunir la totalité du scénario. On a vu plusieurs choses, puis on a trouvé cet endroit au milieu de la Creuse, que j'ai été voir, et qui a procuré quelques petites réécritures pour pouvoir tout réadapter dans ce lieu où on se déplaçait vraiment de 300 mètres. Là, il fallait apprivoiser le scénario au lieu. J'ai jamais aimé forcer un lieu à ressembler au scénario. C'est quelque chose qui me... Il faut trouver quelque chose qui puisse s'apprivoiser en script. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a trouvé ce lieu avec le jardin, la petite route extérieure, l'étang à côté, etc., il suffisait de réécrire très simplement quelques petites choses pour que tout le tournage puisse se faire là. Voilà. En plus, ça nous a permis autre chose, c'est de tourner presque dans l'ordre chronologique, ce qui n'arrive pratiquement jamais. Le fait qu'on ait un casting assez réduit, très peu de monde qui était là presque tout le temps, enfin bon, à part Gérard qui venait plus épisodiquement, ça permettait d'abord de jouer avec la météo, ce qui a l'air de rien, mais il fait mauvais, on peut tourner dehors, on tourne dedans. Le lieu nous est ouvert. et de tourner vraiment quasiment dans la chronologie, ce qui a, je pense, bon, les acteurs s'en foutent un peu, hein, cela dit, hein. Ils ont cette espèce de capacité à aller de, à commencer par la fin, et un truc. C'est à nous de, un petit peu, de les aider sur la chronologie. Mais là, je pense que Jean-Pierre a été aidé dans le vieillissement grâce à cette chronologie, quand même. Il a pu vivre d'une manière sereine ce déroulement narratif. Je suis dans un seul lieu, en étant apaisé, etc. Et en, les colères qu'il peut prendre, l'espèce de violence qu'il a à l'intérieur de lui, il pouvait la purifier et la garder intacte à partir du moment où il, le déroulement se faisait quand même dans l'ordre de l'histoire, quand même.
Et l'instrument, la viole de gambe, ça a été facile à apprivoiser?
Oui
pour
et
les
non,
comédiens.
Mais ça faut remonter au début de l'histoire. Quand on a un film comme ça dans les mains, il y a deux options, à tort ou raison. Il y a l'option « je prends pas l'acteur, je prends les musiciens », qui avait pris Straub dans Chronique d'Anna Leibach, qui est une très belle option, hein, dans laquelle en plus il y avait Gustave Leonhardt, un long cours, j'en passais les meilleurs à l'époque, qui était quand même un film prémonitoire. Ou alors il y a l'autre option, à tort ou raison, de se dire je prends les acteurs qui vont faire semblant. Et à ce moment-là, par contre, ça veut dire une grande préparation technique d'une petite année quand même avant pour apprivoiser l'instrument, faire semblant, quoi, voilà. Donc enregistrer la musique au moins un an avant, ce qu'on a fait avec Jordi, ou d'un seul coup, dans ces enregistrements qu'on a fait le soir à là-bas, dans la petite chapelle où il aimait bien enregistrer ça, le film a pris forme. Déjà là, il y avait un scénario musical qui a été construit. Et après, chaque acteur, évidemment, il y avait un maître de musique, qui était Jean-Louis Charbonnier, qui a donc travaillé quasi quotidiennement avec les comédiens. Guillaume étant musicien, c'était plus facile. Les autres, il fallait qu'ils fassent semblant, quoi, je veux dire, et que ça soit à peu près synchrone. Jean-Pierre, ça a été difficile, parce que bon, il n'avait jamais pratiqué aucun instrument. Et lui la solution, ça a été de travailler en miroir. C'est-à-dire que très vite, il a dit, si tu me mets Jean-Louis Charbonnier, le maître de musique, à côté de la caméra, même sans le regarder, je vais pouvoir suivre. Voilà, lui, ça a été sa solution. Voilà, donc il a fait ce qu'il a pu là-dessus. Anne a été plus musicienne, elle avait une bonne position. Quant à Gérard, il a été Gérard Depardieu. C'est-à-dire que lui, il a travaillé à la Gérard Depardieu, c'est-à-dire d'une manière folle et pas très, très disciplinée. Si bien qu'on est arrivé à des solutions avec une main différente que lui derrière. Le résultat, c'est l'injustice de Dieu au cinéma, c'est que le résultat, c'est Gérard qui a les meilleures positions de doigts parce que c'est pas les siens. Voilà.
Alors que c'était le moins sérieux.
Oui, voilà. Mais bon, Gérard, la première fois qu'il a pris l'instrument, il l'a violenté, poussé des hurlements là-dessus, produit des grognements insensés. Je me souviens que Jordi disait « Oh là là, oh là là qu'est-ce que c'est que cette bête en train d'essayer de violenter une viole, quoi, si j'ose dire. » Voilà. Mais en fait, ça s'est très bien passé après sur le tournage. Donc le film était vraiment, on a été baigné dans cette musique du début jusqu'à la fin.
Et voilà. Avec une très belle surprise, c'était l'accueil du public.
Un miracle, ça arrive une fois de temps en temps, voilà, c'est comme ça. Je pensais que ce film, si on disait tous, oh là là, si on a l'épreuve de piano de province, ça sera déjà bien. Et on a eu beaucoup plus que ça, c'est une belle récompense, oui, bien sûr. Je me souviendrai toujours, moi, du premier film que j'ai fait avec un distributeur de l'époque qui s'appelait Joe Siritsky, qui était un monsieur de la tradition du cinéma, qui m'a dit, vous commencez dans le cinéma, souvenez-vous toujours que dans le cinéma, l'échec est la règle, la réussite une exception. Et j'ai jamais oublié cette phrase, je crois qu'il avait raison.
L'autre film tiré d'un roman de Pascal Quignard, c'est Le Nouveau Monde. Oui. Là, pour le coup, c'est plus le XVIIe siècle, c'est plus un fantôme qui revient hanter un musicien. Mmh. C'est carrément votre histoire.
Oui, c'est pas autobiographique.
Votre adolescence à Mancq-sur-Loire.
Absolument, c'est le seul film où il y a des éléments autobiographiques. Un, le père vétérinaire. Deux, le fait que le personnage principal fait de la musique. Et trois, le contact avec les Américains à cette époque-là. Voilà, et l'influence américaine de l'époque.
Et là, pour le coup, vous avez pris des musiciens.
Là, pour le coup, on a pris des musiciens, et ceux qui n'étaient pas musiciens, on les a fait musiciens. C'est-à-dire que le personnage principal, on lui a donné les leçons de batterie avec des grands batteurs, Daniel Humer, Simon Goubert, et il s'est révélé. C'est-à-dire que dans le casting, on faisait les castings de gens qui n'avaient jamais tourné, et on faisait en même temps de la musique pour voir s'ils pouvaient... S'ils avaient l'oreille et s'ils pouvaient jouer même en pratiquant quelques mois avant, je veux dire, pour leur donner le sens du rythme. Donc c'est comme ça qu'on l'a choisi. Et effectivement, il y a une grande partie de la distribution, c'est des vrais musiciens, dont le fameux Baptiste Rotignon, qui est devenu un très grand musicien de jazz aujourd'hui, un des plus importants en France, ce qui me ravit parce que j'étais sûr que c'était un très grand musicien dès le départ. Voilà. Oui, donc là, on a fait musique en direct, effectivement. Presque toute la musique est filmée en direct. Et c'est la musique des comédiens, ou du moins des acteurs comédiens, musiciens qui sont à l'écran.
J'ai d'abord cité Tous les matins du monde, puis Le Nouveau Monde.
Oui.
Beaucoup de monde et toujours du Pascal Quignard. Mm-hmm. Mais en fait, Nocturne indien de Tabouki vient avant, c'est en 89.
Oui.
Et là aussi, la musique est primordiale,
oui.
Puisqu'il y a ce largo du quintet en ut majeur
de Schubert
qui est une merveille.
Ce largo a été utilisé assez souvent. Donc je ne suis pas du tout original. Hein. Il a été utilisé par Axel Corti, il a été utilisé dans, Welcome to Vienna. Donc je ne suis pas...
Et qu'est-ce
pas...
qui fait qu'il s'est imposé à vous pour l'Inde?
Alors là, c'est au moment de l'écriture. Dès la deuxième adaptation, je suis tombé là-dessus et je me suis dit, c'est celui-là. C'est celui-là, étant déjà bien amateur de la musique classique de l'Inde, je savais que ça ne pouvait pas être la musique du film.
C'est ça qui est très fort, c'est que vous n'ayez pas pris un raga indien, enfin,
non,
c'est que ce ne soit pas une musique
indienne.
C'était
impossible. Par contre, j'avais fait avant un film, un téléfilm, le seul téléfilm que j'ai fait au Pakistan sur l'Afghanistan, avec Michel Blanc dans le rôle d'un médecin humanitaire qui se faisait piquer, qui est une histoire vraie, qui se faisait piquer par les Russes et tout. Et là, par contre, je savais qu'il fallait que ce médecin soit confronté à la culture afghane et des zones tribales de l'époque. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Oustad Salamat Ali Khan, qui est décédé maintenant, qui était un des plus grands maîtres du Khayal à Lahore, et qui m'a fait la musique. Mais là, qui était uniquement une musique chantée en farsi, parce qu'il avait eu l'habitude d'aller chez le roi à Kaboul pour chanter en farsi, et non pas en ourdou. Et donc là, par contre, la musique était une musique... il fallait que ça soit la musique des gens, parce qu'ils venaient en inviter chez ces gens-là. Voilà. Là, c'est autre chose. Là, c'est quelqu'un qui amène sa musique. C'est un occidental qui se perd en Inde, qui ne comprend rien.
C'est Jean-Hugues Anglade.
Jean-Hugues Anglade, qui est merveilleux dans le film.
Oui. Parce qu'il est bouleversé aussi, on sent que le choc de l'Inde, il
absolument.
Le vit vraiment.
Et vraiment, l'incertitude, là, est à, je l'espère, à chaque plan. Mais ça, c'est l'Inde. L'Inde, pour moi, est le continent de l'incertitude. Et je me souviens d'avoir travaillé constamment avec cette musique. Je savais qu'elle allait revenir presque en boucle, que les autres musiques allaient être juste des musiques sources. On entend un peu de musique tamoule à un moment, des choses comme ça, mais c'est des trucs de bistrot. Et je me souviens, quelques semaines avant le tournage à Bombay, avoir fait écouter à l'équipe indienne pour avoir besoin de leur accord. Et ils ont écouté très intensément et ils ont été très enthousiastes. C'est-à-dire que les Indiens de l'équipe ont dit « Ah bon, d'accord, on a compris ce que tu voulais faire. » Voilà. Et j'avais besoin de cet accord, comme j'avais les quelques techniciens que j'avais emmenés de France connaissaient cette musique aussi. Voilà, alors pareil, on a tourné souvent avec cette musique sur le plateau, en l'écoutant avant, etc. Jean-Hugues l'écoutait beaucoup. Le film ne serait pas le même sans Schubert, hein, mais je pense qu'on a toujours pensé que cette musique était une musique qui parlait de la fin de la vie, hein, ou du moins de l'impossibilité de vie, ou du moins de on ne sait pas très bien ce que raconte Schubert là-dedans. Hein, mais c'est fou comme cette musique, dès qu'on la met sur l'image.
Surtout quand il est face à cette sculpture d'Elefanta, Shiva à trois têtes.
Oui, bien sûr. La Trimurti d'Elefanta, oui. Ah bah oui. Ça, c'est marrant parce que c'est la seule séquence qui n'est pas dans le livre.
Oui, que vous avez rajouté.
Il n'y a pas ça dans le livre, plus une autre partie du Schlemihl qui va à Madras apparemment tuer un docteur allemand qui était dans les camps nazis, qui n'était pas dans le livre et que j'ai trouvé dans un autre recueil de nouvelles de Tabouki. Et j'ai appelé Antonio en lui disant, écoute, parce que lui n'avait pas voulu travailler sur le scénario. Antonio en lui disant, est-ce que tu es d'accord pour que je mette... cette séquence-là, qui s'appelait « Les trains qui vont à Madras », dans « Nocturne indien », il m'a dit « C'est étrange, parce que c'était dans « Nocturne indien », et je l'ai enlevée. Je l'ai enlevée parce que j'ai pensé qu'elle était trop lourde dramatiquement par rapport à cette espèce de promenade d'insomniaque dont je voulais que ce soit le livre. Voilà. Mais il m'a dit « Tu as raison, dans un film, peut-être que ça peut fonctionner, effectivement. Le film a peut-être plus de drame à apporter, et peut-être que ce personnage de Schlemihl, tu peux, s'insérera très bien dans le corps du film. » Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Mais la version de Trimurti me paraissait absolument capitale. D'abord parce que c'était le moment où je pouvais faire un travelling avant.
Comme dans tous les matins du monde sur le tableau.
Et ben exactement. Il y a deux choses qui se ressemblent. C'est le travelling avant et arrière sur l'humain Baugin et le travelling avant où au début, comme c'est dans une grotte, c'est une excavation, hein, ce temple qui est très ancien, qui est du 3e siècle, je crois. On s'avance, on est dans le noir. Peu à peu, l'œil s'accoutume. Donc c'est ce qu'on a fait, nous, avec la caméra. Et on voit apparaître dans l'ombre cette très grosse... tête hein, qui est très massive avec ses trois visages de Shiva effectivement qui est une des plus belles têtes de l'Inde comme avait dit Malraux c'est sans doute l'Inde faite tête et il a raison effectivement oui. Voilà et là la musique alors là on l'avait sur le tournage et je me souviens que les techniciens indiens qui poussaient le film qui poussaient le travelling avaient besoin de cette musique pour comprendre le rythme de la marche de Jean-Hugues et la façon de s'approcher de ces trois visages qu'eux connaissent évidemment très bien, c'est sûr.
Mais le Shiva, il vous a suivi, Alain Corneau, parce qu'il est même dans le deuxième souffle, il y a le Shiva Nataraja.
Alors, c'est pas le même, c'est
le
Nataraja.
Oui, le Shiva dansant
en bronze. Le Nataraja, il est évoqué dans Nocturne indien, c'est pas le même Shiva, c'est le Shiva du Sud. Mm-hmm. C'est le Shiva de la création et de la destruction, enfin, c'est toujours création et destruction Shiva, bien sûr, mais c'est celui aussi qui est le patron des arts, patron de la nuit et du jour,
et destructeur.
Et recréateur, avec ses petites flamèches dans le cercle vital, voilà. Et on en parle dans Nocturne indien autour de Schlemihl. Schlemihl dit que ce médecin avait, dans le camp nazi, Quand l'extermination avait sur son bureau un Shivana Taraja.
Voilà. Autre écrivain, Amélie Nothomb pour Stupeur et tremblement, et oui. aussi Dominique Ménard pour Les mots bleus, oui. qui était tiré de leur histoire, avec Sylvie Testu, qui fait la Absolument. Messagère dans les deux films. Oui.
Bah, il m'arrivait avec Stupeur et tremblement un petit peu ce qui m'était arrivé avec le livre de Thompson. C'est un livre que j'avais lu au moment de la sortie qui m'avait fait beaucoup rire, comme beaucoup de gens. Oui, oui, bah, oui, parce que c'est drôle, je trouve qu'elle a un humour belge dévastateur. Comme beaucoup de gens, le livre a été un de ses plus gros succès à l'époque. Mais j'avais jamais pensé à faire un film. On peut faire un film en japonais dans les bureaux. Enfin bon. Et puis, 6 mois plus tard, par hasard, je l'ai repris, je ne sais pas pourquoi. Et dès la troisième page, je me suis dit, mais c'est un film. Voilà. Après, j'ai compris pourquoi. Hein. Bon. Mais au début, j'ai... Alors pareil, j'ai demandé à Amélie, est-ce que vous voulez travailler avec moi ? Oh, non, non, pas du tout. Non, non, j'ai fait le bouquin, faites ce que vous voulez. Et dans ces cas-là, je dis toujours, mais permettez-moi de vous envoyer les différents stades du scénario. Si vous avez quelque chose à me dire, et c'est ce que j'ai fait, mais à chaque fois, elle m'a dit non, non, c'est très bien, c'est très bien. Voilà, donc j'ai travaillé. Pour celui-là, j'ai travaillé seul. Je crois que c'est un des premiers où j'ai travaillé seul à l'adaptation, voilà, où j'ai pas eu besoin d'un renfort. Je me suis beaucoup amusé à l'écrire. Évidemment que Orient-Occident, complémentaire, contradictoire, que j'ai tout de suite vécu ce personnage du Fubuki japonais et d'Amélie occidentale comme étant le même personnage. J'ai tout de suite pensé à ce générique où les deux visages allaient se fondre l'un dans l'autre. J'ai été très excité de me dire que le film allait se tourner en japonais et très effrayé de nouveau.
Et avec du Bach, avec les variations Goldberg Bach, pour
sûr.
Musique.
J'étais sûr, Goldberg, tout de suite. Tout de suite, mais alors là, pour plein de raisons. J'ai pensé que la mécanique de Bach ressemblait à ce que nous, attention, à l'image que nous projetons sur le Japon. Jamais je dirais le Japon c'est ci ou ça. Je dirais toujours notre vision du Japon. Je pensais que ça correspondait bien. Je pensais que le son du clavecin correspond aussi à une certaine... Préciosité japonaise telle qu'on peut nous la voir. Et je pense aussi que Goldberg raconte une histoire avec différents éléments plus ou moins drôlatiques, plus ou moins fantasmagoriques, avec un premier exposé du thème qui est donc le personnage et un dernier mouvement qui est donc la réexposition du thème ayant vécu tout ça. Et comme ce film est un film d'apprentissage, parce qu'en fait Amélie va apprendre qui elle est grâce au japonais et va apprendre qu'elle est faite pour écrire. Grâce à Fubuki, hein, grâce à sa tortionnaire, qui est en fait une initiatrice, ça m'a semblé correspondre très bien. Par contre, ce qui était difficile, c'est de choisir l'interprétation. Parce qu'il y a celle de Gustave Leonhardt, qui est très très grandiose, il y a beaucoup de magnifiques interprétations, et c'est celle-là que j'ai choisie, parce que celle-là était, à mes yeux, la plus vivante, la plus cinématographique. Et ça a été un délice de mixer le film avec cette musique. Mais de nouveau, sur le plateau, c'est Pierre Entaille, hein, c'est la version de Pierre Entaille. Une première, parce que je crois qu'il en a fait une deuxième. Sur le plateau, ça a été absolument capital de l'avoir. De nouveau, on jouait la musique sur le plateau en mettant en place les plans. Et après, au montage aussi, bien sûr que oui. Oui, oui. Alors, tournage japonais, frayeur, évidemment, de tourner dans une langue que je ne comprends pas du tout. Pas un mot de japonais, à part « arigato gozaimasu »,« sayonara », c'est tout. Et rassuré tout de suite, grâce au japonais, en faisant du casting, distribution à Tokyo, en voyant que par interprète, ça se passait très bien. Et en fait, une grande jouissance sur le plateau après, de voir que la direction d'acteur, ce qu'on appelle la direction d'acteur, était encore plus facile dans une langue que je ne comprends pas. Parce que du coup, je ne leur cassais jamais la tête avec des trucs psychologiques, avec des machins comme ça. Je leur disais simplement un peu moins haut, un peu plus bas, c'est tout. Et hop, eux étaient en totale liberté par rapport à ça. Quant à Sylvie, alors elle a eu la rentrée dans le film, ça a été 6 mois de travail quotidien à apprendre le texte. Apprendre non seulement son texte en quasi-phonétique, bien sûr qu'elle savait de quoi elle parlait, mais bon, mais apprendre le texte des autres, pour savoir quand est-ce qu'elle doit intervenir ou pas intervenir. Mais elle me disait, bon, elle a eu des moments de découragement, j'étais là derrière pour lui dire, tu vas y arriver, il n'y aura pas de problème. Et après, sur le plateau, comme elle avait cet énorme travail, elle a débouché dans le film de manière très naturelle. Je veux dire. Elle m'a dit, oui, c'est vrai que c'est plus difficile qu'un autre film parce que c'est une langue que je ne comprends pas. Mais en même temps, elle a toujours pensé, et Sylvie, elle a raison, comme tous les grands comédiens, qu'il fallait absorber le texte, l'oublier, pour pouvoir le ressortir naturellement sur le plateau. Donc il se passait la même chose en japonais. Voilà. Sauf que de temps en temps, évidemment, ça lui tirait un peu la tête. Hein. C'était... C'était un peu difficile de temps en temps. Et ça a été... Alors, le contact avec les Japonais a été merveilleux. Voilà. C'est un pays que j'ai appris à aimer, parce qu'on n'apprend pas à comprendre. On apprend qu'à aimer, et le mystère, pour moi, japonais, reste entier. Chose qui... perturbe beaucoup les Japonais. Et pourquoi vous pensez que le pays est mystérieux ? Il n'y a aucune raison. On est très simple et tout. Ils ont raison de dire ça, d'ailleurs. Mais je pense que le Japon est le bout de la route vers l'Est. Je crois qu'en Inde, on est perdu, etc. En Chine aussi. Mais on arrive à se raccrocher à des choses. Quand on arrive au Japon, là, on est vraiment paumé. Parce qu'en plus, comme il n'y a aucun filtre, il n'y a pas de folklore. Enfin, je veux dire, il y en a, mais c'est un pays ultra moderne. Tokyo a l'air beaucoup plus moderne que New York, etc. Les gens sont habillés comme nous. Donc, et le piège se fait encore plus grand, quoi. Voilà. On est devant, à mes yeux, un véritable mystère, mais un beau mystère, hein, qui vous pose des questions sur vous-même.
Et c'est toujours assez déroutant parce que vous passez du Japon au mot bleu,
oui.
C'est-à-dire, si on remonte un peu dans le temps, Sainte-Colombe, Marin-Marais, Bach, et là, tout d'un coup, Christophe, pour votre public de mélomanes, c'est un coup de massue.
Il y a eu des pleurs et des grincements de dents là-dessus.
Alors que ça s'appelait Leur Histoire, le livre de Dominique Ménard.
Oui, mais dès le début, on n'a pas voulu l'appeler Leur Histoire, mais je ne sais pas bien comment on l'appelait, et je savais que le personnage masculin devait être narrativement un peu plus important que dans le livre. Bon. Dominique Mara m'a dit qu'elle avait écrit le livre vraiment en un seul jet, etc. Donc, sans une véritable construction, et elle était d'accord pour qu'on reconstruise un petit peu de cette manière-là. Par contre, je ne savais pas comment l'appeler. Et puis, c'est vrai que c'est la productrice, c'est Michel Halberstadt, qui un jour m'a dit, mais est-ce que tu connais ces trucs de cette vieille chanson de Christophe qui a été un gros succès? Non, je ne connaissais pas vraiment.
Les mots bleus.
Et elle m'a fait écouter, et je me suis dit, mais oui. D'abord, cette musique est à hauteur de mes personnages. Et on va faire tout un travail de décantation de cette chanson, peu à peu, pour arriver à la faire entendre à un certain moment dans le film.
Et à l'oublier même. À la fin, on sort de la salle en se demandant si on l'a entendu une seule fois chanter par Christophe.
On l'a entendu une fois, et une fois dans le film, et une fois à la fin, c'est tout. Mais sinon, le reste du temps, on n'a que des approches de cette musique, c'est tout. Mais j'aime à penser que ce film est une sorte de gros clip vidéo.
Non,
mais je viens dans le bon sens, sur cette chanson. Quoi, voilà. Non, il y a d'autres thèmes, bien sûr, qui est le thème
c'est
de
un
la
film
perte,
très délicat.
La perte de soi, la peur de s'ouvrir aux autres, la peur d'aimer, la peur de la trahison. Et de nouveau, à mes yeux, trois personnages qui cherchent à être. Quoi. Voilà.
C'est un film qui finit bien, ce qui n'est pas si
fréquent
chez vous.
C'est un film optimiste. Je ne pouvais pas faire un film pessimiste, c'était impossible. Le sujet, cette histoire d'amour, que j'avais jamais fait une histoire d'amour frontalement. Donc j'étais incapable de finir ce film sans avoir une sorte d'optimisme. Oui. Je veux dire, je pouvais pas faire un film sur trois solitudes et sur trois désespoirs et finir sur trois désespoirs. Ça me paraissait complètement impossible. Je veux dire, il fallait absolument qu'il y ait que cet amour soit conclu positivement à la fin. C'était impossible autrement. Impossible. Ouais.
Merci Alain Cordon.
Merci.
La suite demain donc. Pour l'ultime clap, nous reviendrons sur le deuxième souffle qui sort ces jours-ci et sur cette énergie qui vous fait avancer, Alain Corneau. Un peu comme ce duende qui était si cher à Federico Garcia Lorca et qu'on retrouve dans La Corrida. Voilà, à demain. C'était Alain Corneau, à voix nue, avec Sophie Nolot. Prise de son Marcel Lebras, réalisation Laurent Polleret.